Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Meilleurs vœux.
Merci, Urte Berrion.
Et meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs de Radio La Pourdire à Thé en Pays Basque et de Radio Présence Lourdes Pyrénées en Béarnais-Bigorre. Bonjour à Violaine Ricourt-Dumas et meilleurs vœux également.
Bonjour, bonne année.
Nous commençons cette émission par les événements qui ont eu lieu dans notre pays ces derniers jours. Et je précise que nous enregistrons cette émission le mardi 13 janvier 2015. Alors, Monseigneur Ayé, vous avez publié un communiqué au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Alors, quelle a été votre réaction ?
Ma réaction est évidemment de participer à l'indignation générale face à des actes que je qualifierais de sauvagerie ou de barbarie contre des policiers, contre des journalistes, contre des otages aussi qui n'avaient encore évidemment rien demandé. Et j'ai en plus été attentif au fait que c'était au nom de Dieu et de la religion que ces actes avaient été perpétrés. Et j'ai précisé que cela portait un tort considérable à toute religion en général, mais en particulier aux musulmans. C'est pourquoi j'étais heureux de rencontrer le responsable du culte musulman de la côte basque. J'ai aussi précisé que pour moi, c'était aussi lié à toutes ces victimes quotidiennes de ce terrorisme islamiste qui se déploie dans le monde, en particulier dans les pays du Moyen-Orient, je pense en Syrie, en Irak, que j'ai visité au mois d'octobre dernier, au Nigeria. Dans l'indifférence générale, comme l'a remarqué et souligné le pape François devant les institutions européennes le 25 novembre dernier, et qui devrait susciter une indignation au moins aussi intense de la communauté internationale.
Alors selon vous, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Est-ce qu'il y a un échec d'intégration au sein même finalement de la France ? Puisque le terrorisme se développe au sein même de la France.
Alors ça procède en tout cas surtout d'une radicalisation de l'islam dans le monde, comme nous le savons bien, hein, avec les événements que nous connaissons au Moyen-Orient, en particulier avec l'avancée de l'État islamique et ses exactions violentes. Et également dans notre pays, un échec d'intégration. Moi, je ne suis pas un politologue. Ce que je crois, c'est qu'il y a une radicalisation de l'islam, y compris dans nos banlieues, sous couvert évidemment de nos mosquées. Est-ce que c'est un manque d'intégration ? Est-ce que je crois qu'il y a aussi un vrai malaise dans notre société et qu'il ne faut pas éviter le débat sur la question de civilisation, la question du sens que tout cela pose, voyez. Dans une société quand même de plus en plus matérialiste et hédoniste, qui met en avant une conception très libérale et très libertaire de la vie humaine, très relativiste de toutes les valeurs, en partie religieuses, qui animent encore beaucoup de nos concitoyens, faut pas s'étonner qu'il y ait une sorte de vide de sens dans lequel s'engouffre toute forme de non-sens, et en particulier de violence aveugle et absurde.
Alors, Monseigneur Ayé, vous étiez à la manifestation du samedi 10 janvier à Bayonne, appelé par les maires, les élus du BAB. D'après la presse, il y avait 20 000 personnes. On vous a vu à la télévision auprès des représentants des autres religions. Comment expliquer qu'un évêque manifeste en faveur de Charlie Hebdo, puisque quand même c'était un journal qui caricaturait souvent la religion ?
Alors moi, je n'ai pas évidemment manifesté en faveur de Charlie Hebdo, et je regrette profondément que cette manifestation, dans l'esprit des médias, ait été détournée de sa finalité profonde. Je me suis indigné devant des actes de barbarie et de sauvagerie qui ont touché en effet des journalistes de Charlie Hebdo, mais pas que. Et je n'ai pas, je ne me considère pas comme Charlie. Je ne suis pas Charlie pour ma part. Je trouve que c'est une manière qui fait partie de l'émotion générale, sans doute, du monde politico-médiatique et qui est peut-être à attirer dans son élan émotionnel l'ensemble de nos concitoyens. Moi, je n'ai pas. Vous voyez, je crois que ça pose quand même un problème sur effectivement la liberté d'expression. Ici, semble-t-il, ces journalistes sont tombés au nom d'une liberté d'expression un peu débridée. En Irak et en Syrie, sous les mêmes coups du terrorisme islamiste, on tombe pour la liberté de religion, qui est une liberté plus fondamentale, et même simplement pour la foi, hein, chrétienne en particulier, même s'il y a aussi d'autres minorités religieuses qui sont sous le coup de cette radicalisation de l'islam. Pour ma part, la liberté d'expression, quand elle consiste à promouvoir une conception, encore une fois, nihiliste de l'existence humaine, jusqu'à rendre dérisoire les valeurs les plus fondamentales de l'existence humaine, et bien, y compris la vie elle-même, est une liberté d'expression qui peut-être remise en cause. Quand on s'attaque à des symboles fondamentaux, sous prétexte de satire et d'humour, de la vie des hommes, on peut aussi exposer sa propre vie et la vie des autres au fanatisme pourtant prévisible de certains qui se déploient dans le monde. À ce moment-là, j'appelle ça plutôt un déni d'humanité, et je pense que ça procède aussi de cette grande crise du sens qui s'achève dans le non-sens de notre civilisation d'aujourd'hui, auquel en effet les plus extrémistes et les plus fanatiques ont beau jeu de s'attaquer à travers une violence que je condamne bien sûr avec la dernière énergie, et c'est évident que j'ai prié et je prie pour les victimes, y compris les journalistes de Charlie Hebdo qui sont tombés sous les coups de cette barbarie.
Effectivement, beaucoup de gens sont descendus dans la rue pour défendre cette liberté d'expression. La question, c'est qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que, par exemple, le fait que Charlie republie une caricature de Mahomet, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de faire ça ?
On joue avec le feu. Pour ma part, je peux avoir une idée réaliste de Mahomet, de son histoire, qui n'est pas sans violence, comme on le sait. Mais pour la plupart des musulmans qui vivent avec nous, avec qui nous vivons paisiblement, Mahomet est le symbole d'une religion qui leur permet, eux, bien, de se raccrocher à un Dieu tout-puissant, un Dieu de miséricorde, et qui essaie de donner un sens à leur existence terrestre.
Donc c'est par respect pour eux qu'il ne faut pas publier cette caricature ?
Mais bien sûr, c'est par respect pour les personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la peur ? Moi, je préfère risquer ma vie pour des valeurs qui en valent la peine. Et quand il s'agit, quand on salit les personnes qui portent les symboles, qui font vivre des millions de personnes, je trouve que c'est aussi coupable et que c'est aussi, ça peut être aussi criminel. Le pape a fustigé le terrorisme des mots et des bavardages en disant qu'on pouvait tuer un homme de sang-froid par des paroles contre quelqu'un. Ben, des images, et moi je pense aussi aux images contre l'Église catholique, contre les grands représentants de l'Église catholique, qui sont encore plus sacrilèges parce qu'elles sont obscènes, ce qui n'a pas été le cas de Mahomet. Et je vois aussi qu'il y a des personnes que Charlie Hebdo ne touche pas. Vous ne ferez rien sur les Juifs. Vous ne verrez rien sur les Noirs. Vous ne verrez rien sur le communisme. Car il faut savoir quand même qu'un certain nombre de ces rédacteurs et caricaturistes de Charlie Hebdo, que je respecte et devant laquelle je m'incline, la mort desquels je m'incline encore une fois, mais sont quand même de la génération 68 qui ont pactisé passablement avec le marxisme et ses exactions dans le monde.
Donc la liberté d'expression a des limites finalement qu'on se pose naturellement.
Pour moi, la liberté d'expression a des limites. La liberté doit être toujours reliée à la vérité, qui donne un sens à l'existence humaine. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on peut mettre en jeu, encore une fois, des biens fondamentaux, à commencer par la vie.
Le ministère de l'Intérieur a recensé une cinquantaine de mosquées qui ont été victimes d'attaques ces derniers jours. Bien sûr, vous condamnez ?
Bien sûr que je condamne, comme je condamne aussi les milliers de tweets et d'expressions dans la rue même et dans les écoles qui ont salué cet attentat dans certains milieux, comme vous le savez, qui ont adhéré à ce terrorisme islamiste. J'ai d'ailleurs, dès que j'ai appris vendredi matin les tags sur la mosquée de Bayonne, appelé au téléphone M. Ouajou, hein, qui est le président de l'Association des musulmans de la Côte Basque, pour lui dire ma solidarité, car il faut éviter tout amalgame. Et nous devons garder un grand sang-froid dans cette affaire.
Comment est-ce qu'on peut agir, nous catholiques, justement, dans, peut-être dans le dialogue interreligieux, est-ce qu'on peut l'approfondir pour éviter ce genre de dérapage ? Alors,
c'est évident qu'il faut continuer à entretenir des relations paisibles avec ceux avec qui nous vivons au quotidien, et en particulier les autres cultures et les musulmans. Dans ce dialogue interreligieux, il faut aussi quand même poser des vraies questions et se demander pourquoi on dit que cet islamisme extrémiste est une minorité des musulmans. C'est vrai qu'il y a 1,2 milliard de musulmans dans le monde, mais on dit quand même qu'il y a 15 à 25% qui sont radicalisés. Ça veut dire pratiquement 350 millions dans le monde. Radicalisés, ça veut dire qu'ils se réclament quand même du Coran. Donc il faudra quand même aborder dans ce dialogue interreligieux avec beaucoup de distance par rapport aux événements qui provoquent de l'émotion, sur la raison pour laquelle ces extrémistes peuvent impunément se réclamer du Coran, car il y a des sourates qui sont des faits très violentes. Vous ne verrez jamais un chrétien qui commet des exactions, car il y en a aussi, qui puisse se réclamer de l'évangile.
Monseigneur Ayé, nous continuons avec vous. En ce début d'année 2015, vous avez prononcé vos vœux récemment au clergé du diocèse. Vous avez tout d'abord fait retour sur cette année avec beaucoup d'événements, bien sûr, la consécration du diocèse, toutes les réalités de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce que vous avez dit à vos prêtres ?
Moi, c'est sûr qu'en rencontrant le clergé, j'ai voulu d'abord remercier les prêtres pour leur engagement pastoral au quotidien et avec les fidèles laïcs qui collaborent à leur charge. Donc à travers les prêtres, c'est à tout le diocèse que je formule ces remerciements et ces vœux. J'ai pu constater en effet cet engagement pastoral au quotidien des prêtres et des fidèles qui collaborent à leur charge, en particulier à travers mes visites pastorales que je poursuis avec bonheur, puisque j'ai quand même visité maintenant 53 paroisses sur 69. Donc j'avance et je peux prétendre commencer à connaître un peu la réalité diversifiée de notre diocèse. Et donc je crois être dans ces visites très à l'écoute des réalités que je découvre, être surtout dans le souci d'encourager, et tout en donnant quelques orientations fondamentales pour stimuler les communautés dans la mission d'annoncer l'Évangile. Donc je rends grâce à Dieu pour tout cela et pour beaucoup de rencontres que nous avons eues dans l'année, organisées par la catéchèse, par la pastorale des jeunes, quand même assez dynamique, par le catéchuménat qui nous fait découvrir aussi de plus en plus de recommençants adultes qui viennent frapper à la porte de l'Église pour demander le baptême et qui ont soif de connaître Jésus. Je pense aussi à la consécration du diocèse, aux 5 heures de Jésus et de Marie pour la grande fête diocésaine à la Pentecôte dernière, et puis les missions paroissiales qui se multiplient dans des paroisses très différentes du Béarn et du Pays Basque.
Avec la communauté Palavra Viva.
De la joie brésilienne de notre communauté Palavra Viva qui s'inscrit bien dans notre paysage.
Vous avez aussi rendu grâce pour les séminaristes et le séminaire qui prospère.
Oui, puis en plus j'étais tout dans la joie et l'action de grâce pour l'ordination d'un nouveau diacre originaire d'Andaille et d'un nouveau prêtre qui, par sa maman, est originaire d'Amadoche.
Paul-Marie Boutin et Amador Vicente.
Donc ça, c'est quand même une grande source d'espérance pour le diocèse que de voir des jeunes s'engager pour son service et assurer une certaine relève de nos prêtres. Et puis, j'ai parlé du séminaire. C'est vrai que je vois que le séminaire progresse dans un vrai climat fraternel, de joie, de confiance, de ferveur, de sérieux dans l'étude, de prise progressive avec le terrain, avec un vrai souci de rencontrer les réalités du diocèse, qui s'invite d'ailleurs au séminaire. Et je crois qu'il y a une mutuelle connaissance qui est très fondatrice pour l'avenir.
Combien de séminaristes cette année ?
Bon, nous avons 21 séministes, plus que 20, puisqu'il y en a un qui est devenu prêtre, et 3 propédeutes. Donc voilà, c'est tout à fait petit, modeste, mais c'est une vraie source d'espérance. Je constatais aussi que le pèlerinage des séminaires qui a eu lieu dans la foulée de l'Assemblée plénière dernière du 9-11 novembre à Lourdes a été un grand moment aussi pour l'Église de France, où les évêques ont découvert, je pense, cette nouvelle génération de jeunes aspirants au sacerdoce, qu'ils soient de Saint-Martin, de l'Emmanuel, des diocèses, de GFU, de la Mission de France, tous abrassés dans une grande atmosphère de joie et de fraternité, et découvrir que cette génération est différente des précédentes, qui sont un peu tous de la même veine. Je pense que les séminaristes de Bayonne étaient contents de retrouver d'autres séministes qui, d'une certaine manière, ressemblaient à leur génération.
Alors, en quoi est-elle différente ?
Je pense que c'est une génération qui est marquée par le pontificat de Benoît XVI, et sans doute de Jean-Paul II aussi, mais ils sont peut-être un peu trop jeunes maintenant. Et je dirais que c'est quand même des séminaristes qui sont de la génération Benoît XVI. Donc c'est magnifique. On attend maintenant la génération François, bien entendu, hein, mais qui sera dans la continuité aussi, bien sûr.
Vous avez également évoqué les consacrés, les personnes qui ont prononcé des vœux. Il y en a eu quelques-unes dans notre diocèse.
Alors, j'ai évoqué, on en parlera peut-être à un autre moment, mais de l'année de la vie consacrée, qui est peut-être aussi un formidable stimulant pour nos communautés anciennes, c'est vrai, souffrent hein, d'envisager l'avenir avec peu de vocation, et pour ne pas dire aucune. Mais il y a aussi des jeunes de notre diocèse qui se lèvent pour consacrer leur vie dans des communautés contemplatives, pas forcément dans le diocèse justement, mais ou des communautés plus nouvelles comme la fraternité Notre-Dame des Prêcheurs qui est en train de mûrir, si je puis dire, à Pau, sous le beau soleil de Pau, Bethsaïde de Pau, des Pau. Et donc, tout ça est encourageant de voir qu'il y a des jeunes filles de nos communautés aujourd'hui qui, même si elles ne rentrent pas dans nos communautés traditionnelles, veulent consacrer leur vie au Seigneur.
Alors, Monseigneur Ayer, vous avez évoqué l'année de la vie consacrée. Vous avez lancé aussi l'année Sestac.
Oui, alors voilà, la grande perspective de l'année pour nous dans le diocèse, qui va pas se télescoper, mais au contraire coïncider avec l'année de la vie consacrée dans l'Église universelle, c'est l'année Louis-Édouard Sestac, puisque nous allons avoir la joie, le 31 mai prochain, de célébrer la béatification du père Sestac, hein, tant attendu depuis si longtemps, et par les servantes de Marie, dont il a été le fondateur, et le diocèse, parce que avant d'être le fondateur des servantes de Marie, comme on le sait, et il a été prêtre du diocèse de Bayonne, 20 ans vicaire à la cathédrale de Bayonne, et c'est là qu'il a manifesté et déployé son attention aux plus pauvres, les orphelines laissées pour compte de la révolution industrielle, les prostituées qui voulaient reprendre une vie droite, et c'est d'ailleurs dans le prolongement de son ministère pastoral qu'il a fondé, presque malgré lui, les servantes de Marie, avec toutes celles qui sont venues auprès de lui pour participer à son œuvre de charité.
On se rend compte que beaucoup de diocésains ne connaissent pas finalement la vie du père Sestac.
Voilà, donc j'insisterai d'ailleurs beaucoup là-dessus. Si le pape a décrété, en reconnaissant le miracle obtenu par son intercession, la béatification du père Sestac, qui sera d'ailleurs célébré dans le diocèse, puisque Benoît XVI a à juste titre rapatrié les béatifications dans les églises locales, c'est bien parce qu'il considère que le père Sestac a un message à donner, une aide à apporter, devient un modèle à imiter pour les diocésains, particulièrement de Bayonne, Lescar et Oloron, et pour sa famille religieuse. Ce qui veut dire qu'il faudra que nous profitions de cette année pour faire connaître le père Sestac, hein, et faire connaître l'actualité de son message. J'écrirai moi-même une petite lettre pastorale, très courte, je vous promets, dans laquelle j'aborderai un certain nombre de points pour faire connaître le père Sestac et essayer de faire prendre conscience de tout ce qu'il peut nous apporter à tous. Hein, donc je parlerai de la vocation à la sainteté, des vocations sacerdotales, de la vie du ministère des prêtres, de la vie consacrée, puisqu'il a fondé une communauté religieuse, de la famille, parce que la famille a beaucoup d'importance, non seulement sa famille de la terre dans son œuvre, mais aussi l'esprit familial qu'il a voulu donner à sa congrégation des servantes de Marie, le service des pauvres, qui est au cœur même de son charisme, et la dévotion mariale, sans laquelle il n'aurait rien pu faire.
Pour terminer sur ces vœux de bonne année, Monseigneur, vous avez également prononcé des vœux de communion, puisque effectivement récemment vous avez subi des attaques, notamment dans un article paru dans Sud-Ouest. Vous avez souhaité à nouveau préciser quelques points.
Alors j'ai voulu en effet revenir sur cet article à charge contre l'évêque dans le Sud-Ouest du 7 décembre, non pas pour rajouter à la polémique, et d'ailleurs, comme vous le savez, j'ai voulu, sur le conseil du cardinal Jean-Pierre Ricard, qui m'a évidemment accordé son soutien, écrire une lettre à mes diocésains, ne pas entrer en joute avec des chrétiens par voie de presse, bien sûr, hein, non pas dans un esprit polémique, mais pour apporter quelques éclaircissements sur mon action d'évêque et ma mission dans le diocèse, et puis ce qui se passe aussi dans le diocèse, dont nous pourrions avoir une vision un peu étroite, partielle et partiale, en lisant l'article de Sud-Ouest. Je n'ai pas voulu d'ailleurs me mettre en porte-à-faux vis-à-vis des journalistes et autres qui font leur travail comme ils peuvent. J'ai bien sûr dit que cet article m'avait blessé. Dire le contraire serait mentir. Et d'ailleurs, j'ai voulu remercier à cette occasion tous les prêtres, qui sont assez nombreux, et les fidèles, qui m'ont manifesté depuis un soutien et surtout m'ont assuré de leur prière, ce sur quoi je compte premièrement. Comme je l'ai dit, et j'ai voulu revenir là-dessus, ce qui m'a le plus choqué, c'est la dénonciation sur la place publique, par voie de presse, sous couvert d'anonymat, appuyé sur des réalités ecclésiales souvent d'ailleurs, qui ne font pas toujours preuve d'impartialité ni de tolérance, et de communion, je pense à Goliath, et autres structures extra-ecclésiales. Je n'y reviens pas, mais j'ai voulu quand même signifier que il me semblait qu'on pouvait entendre quelques propos du pape François dans son discours à la Curie romaine, qui a beaucoup fait couler d'encre parce que tout le monde a dit, vous voyez, c'est à nouveau un soufflet, une gifle à la Curie. Vraiment, ce pape veut remettre la Curie en ordre de marche. Alors donc certains s'en lamentent, certains s'en réjouissent. Mais personne n'a noté que le pape s'impliquait lui-même dans cet examen de conscience, qu'il a proposé à la Curie romaine en guise de vœu de Noël, et qu'il a précisé que c'était en vue de préparer le sacrement de réconciliation de Noël, donc de préparer la confession de Noël. Lui, comme les autres, en disant que ça débordait largement la Curie romaine, mais que c'était vrai pour toute curie, pour toute association, pour toute paroisse, pour toute communauté chrétienne qui est considérée comme un corps et qui peut être soumis à des tentations et à des maladies. Alors il en a fait un catalogue assez précis, et j'ai rappelé deux maladies qu'il avait soulignées, qui peuvent éclairer quand même ce fâcheux incident de Sud-Ouest. La première maladie, c'est la maladie qu'il appelle des bavardages, des murmures et des commérages, hein, où il dit la maladie des personnes lâches qui n'ont pas le courage de parler directement et qui parlent dans le dos. Et il dit, frères, gardons-nous du terrorisme des bavardages. Et puis, une autre maladie qui me semble assez actuelle aussi, c'est la maladie des cercles fermés. Quand l'appartenance à un petit groupe, un collectif, une conférence, devient plus forte que celle du corps, et dans certaines situations que le Christ lui-même. Et qu'on part de ses revendications à soi, et en marge un peu du corps de l'Église, et finalement, on arrive à une autodestruction. À frapper un mal qui frappe de l'intérieur, comme il dit, tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine. C'est pour ça que j'ai appelé, en guise de vœu, à ce que nous soyons vraiment, moi le premier, des artisans de paix et de communion, et que nous fassions jouer d'abord les principes évangéliques de la communion, hein, en particulier à travers la rencontre, seul à seul. Je pense toujours à cette recommandation de correction fraternelle que Jésus nous donne dans l'Évangile. Si ton frère a péché contre toi, si tu considères qu'il a péché contre toi, va le trouver seul à seul. Et toujours dans un esprit d'amitié bienveillante. Voyez. Et s'il ne m'écoute pas, je ne l'aurai pas gagné, je vais demander à deux ou trois témoins qui peuvent amicalement, et puis finalement, je le dirai à l'Église de Dieu, et il pourrait être considéré sur la place publique comme un publicain et un pécheur. Et puis faisons fonctionner à plein, et je me suis engagé devant les prêtres, car il y a toujours à parfaire les choses dans ce domaine, tous nos organismes ecclésiaux de communion et de participation.
Monseigneur Hayet, nous reprenons ce dialogue avec vous. Nous parlons des événements de l'année 2015 avec un grand événement en octobre. Ce sera le synode sur la famille. La première session a eu lieu donc en octobre dernier. La seconde est prévue en octobre prochain. Pouvez-vous nous expliquer le thème et puis comment ça va se dérouler concrètement cette année ?
Alors donc, après cette première session du synode extraordinaire des évêques en octobre 2014, va avoir lieu donc la deuxième session, ordinaire cette fois, donc avec des évêques qui sont ou bien nommés par le pape directement, ou bien élus par les différentes conférences épiscopales. Le thème de cette assemblée synodale sera, tel qu'elle a été formulée par le Saint-Père, la vocation et la mission de la famille, dans l'Église et dans le monde contemporain. Donc vous voyez que ça c'est très large, et ça, je dirais que ça étend à la vocation et la mission de la famille en général et en particulier, tout le débat du synode des évêques. Le pape a voulu que ce soit le rapport général qui ait été approuvé par l'Assemblée synodale de 2014, qui tienne lieu de lineamenta. Alors lineamenta, c'est un mot latin qui veut dire finalement les grandes lignes ou les grandes orientations de la réflexion des pères synodaux en 2015.
Donc le rapport final, en fait, ce qu'on appelle le rapport
final. Le rapport final de l'Assemblée de 2014, qui a été largement distribué depuis le mois de décembre dans les églises locales, pour qu'il soit approfondi à tous les niveaux de l'Église. Et pour cet approfondissement du rapport général, il y a un questionnaire qui a été composé par le secrétariat général du synode et qui permet en effet de s'approprier ce texte et puis d'exprimer tout ce que l'on a envie dans l'ordre pastoral, d'exprimer sur ce thème de la vocation et de la mission de la famille dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui.
Des questionnaires vont être distribués aux prêtres. Comment va s'organiser dans notre diocèse la réflexion? Est-ce que vous allez demander leur avis aux laïcs? Comment ça va se passer?
Alors, moi, j'ai présenté donc le rapport général aux prêtres et le questionnaire au moment des vœux. Je leur ai distribué à tous les prêtres de manière un peu symbolique en leur disant ben maintenant, vous avez cet outil, ces lineamenta, avec le questionnaire attenant, à vous dans vos paroisses, de susciter des rencontres avec les fidèles, impliqués dans la passion familiale ou non, avec les mouvements, de manière à répondre aux questions avec les fidèles. Donc c'est évidemment ouvert à tous. Et sachant que j'ai donné ça aux prêtres, donc je suis sûr qu'ils vont le faire. Mais en même temps, j'ai prévu d'envoyer à tous les diocésains, par les prêtres, par les mouvements aussi du diocèse, un petit courrier qui part cette semaine, dans lequel je leur confie ce rapport général avec le questionnaire, en les invitant à constituer des groupes dans leur mouvement, dans leur communauté religieuse, dans leur paroisse, pour faire ce travail d'approfondissement. Et je leur propose d'articuler la réflexion de la manière suivante, prendre un temps de prière d'abord, en particulier la prière composée par le pape à l'occasion du synode, choisir un animateur et un secrétaire dans le groupe, lire le rapport final partie par partie et travailler les questions correspondantes sans prétendre nécessairement répondre à toutes les questions si on n'achète pas une question. Il y a beaucoup de questions et c'est pas toujours très facile.
Et puis il y a une date limite aussi.
Voilà, et finalement rédiger une synthèse des réponses et l'envoyer à la pastorale familiale, sachant que la date limite est un peu plus repoussé que la première fois où vous rappelez que le délai était tellement court qu'on a eu finalement très peu de retours, même si on en a eu quand même un certain nombre de paroissiens, de groupes, de mouvements, etc. Et là, on voudrait que ce soit un petit peu plus large et un peu plus fourni. Et donc la date butoir qui nous a été donnée par Rome, c'est le 15 avril. Donc je pense qu'il faut compter pour nous le 15 mars. Et donc on a quand même un peu de temps devant soi pour travailler ce texte.
Alors, dans ce rapport final et dans le questionnaire, quels sont finalement les points qui pourraient poser débat? Vous l'avez un peu exposé aussi lors de vos vœux.
Alors, d'abord, rapidement dire que ce rapport final est composé en trois parties. L'une qui porte sur l'écoute, c'est-à-dire qui essaie de comprendre le contexte et les défis concernant la famille dans la société d'aujourd'hui. Une deuxième partie qui porte sur le regard sur le Christ et donc sur le cœur du sujet qui est l'évangile de la famille. En se rappelant que l'évangile de la famille, c'est à la fois, c'est une personne, l'évangile, c'est Jésus lui-même, qui est l'évangile de la famille, en qui vérité et miséricorde s'embrassent, ne sont pas en tension, mais sont parfaitement harmonisés. Donc c'est très important pour nous de regarder l'évangile de la famille tel qu'il trouve sa plénitude dans Jésus, par rapport au mariage et à la famille, et à partir de là, dans la troisième partie, discuter sur les perspectives pastorales concernant le mariage et la famille. Donc ça va de la préparation au mariage, de l'éducation affective, à l'accompagnement des couples dans les premiers temps de leur mariage, les situations plus difficiles, de fragilité, les séparés non et divorcés non remariés, les divorcés remariés, les situations affectives fragiles que l'on accueille dans les familles, etc. etc. Alors, on se rend compte qu'il y a quand même un vrai consensus sur beaucoup de ces points, et qu'il y a déjà des perspectives très précises. Je pense à la préparation au mariage, je pense à l'accompagnement des familles en difficulté, qui peuvent être aussi des difficultés sociales. On ne parle pas seulement d'ailleurs de ce qui nous concerne, nous en Europe, mais dans le monde entier. Il y a en gros trois points qui sont en débat, et qui seront encore en débat au cours de l'Assemblée prochaine. Le premier débat, c'est la question de rendre plus accessible et souple les procédures en vue de la reconnaissance des cas de nullité. Voilà. Donc certains disent qu'il faut mieux faire ça sérieusement, comme ça se fait aujourd'hui dans nos officialités aux tribunaux ecclésiastiques. D'autres qui disent qu'il faudrait peut-être alléger, dans certains cas, que l'évêque, avec quelques prêtres de bon conseil, assouplisse cette procédure qui conduit à la reconnaissance de nullité d'un mariage. La deuxième question qui fait débat, c'est la question, comme on le sait, de l'accès au sacrement de pénitence et d'Eucharistie pour les personnes divorcées qui se sont engagées dans une nouvelle union. Là aussi, certains pères disent la dispute actuelle telle qu'elle a été fixée par le président synode sur la famille en 1980, à travers l'exhortation apostolique familiale consortio de Saint Jean-Paul II, est tout à fait suffisante. Il faudrait seulement mieux accompagner et mieux accueillir les couples dans un chemin de croissance. D'autres disent, peut-être dans certains cas très limités, est-ce qu'il ne serait pas possible d'accéder au sacrement ? Donc voilà encore une question qui fait débat. Et le troisième débat, c'est la fameuse distinction entre la communion sacramentelle et la communion spirituelle. Certains disant, si on ne peut pas communier sacramentellement, on peut aussi, de tout son cœur, adhérer à la volonté du Seigneur par une communion spirituelle.
Nous passons à notre thème d'actualité, thème de société. Le président de la République a relancé le débat sur la fin de vie, sur l'euthanasie.
Alors d'abord, je dirais un premier mot sur cette fameuse expression « fin de vie ». Qui tend à s'imposer dans notre vocabulaire d'aujourd'hui et qui n'est peut-être pas dénié de perversité. Parce que nous, chrétiens, nous croyons que la mort n'est pas la fin de la vie, justement. Hein. Sur la belle expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie hein. ». C'est une continuation et une entrée dans la vie pleine et définitive. Éternel. Voilà. Donc je pense que l'expression est déjà un petit peu c'est un mot un peu pipé. Bon. Ceci dit, le rapport Claeys-Leonetti, deux députés, l'un de la majorité actuelle, Claeys, et l'autre de l'opposition, Leonetti, mais qui est bien connu pour son premier projet de loi, qui avait beaucoup insisté essentiellement sur les soins palliatifs, semble en tout cas fermer la porte, au moins de manière formulée explicite, à l'euthanasie active et au suicide assisté, qui est toujours réclamé par l'association du droit de mourir dans la dignité, comme vous le savez, et qui sera présenté aussi le 29 janvier, dans le cadre des niches parlementaires, par le parti Europe Écologie Les Verts. Non, dans le rapport Claeys-Leonetti qui a été remis au président de la République, qui sera discuté à partir du 21 janvier au Parlement, on n'ouvre pas la porte de manière explicite, mais on parle de sédation profonde et prolongée. Et dans l'intention du législateur, tel qu'on lit bien le rapport et tel que s'en sont bien expliqués en particulier monsieur le député Claeys, c'est quand même pour provoquer la mort dans un délai qui n'est pas déraisonnable, comme il dit. Bon. Vous voyez, c'est l'intention. La sédation peut être, comme vous le savez, la sédation, c'est comme une espèce d'anesthésie dans la douleur qui peut avoir pour effet non recherché d'abréger la vie et donc de provoquer la mort, selon la théorie de la cause à double effet, comme on dit en morale, mais qui peut aussi, dans l'intention, être tellement massive qu'elle a pour but de provoquer la mort après un temps, un délai raisonnable, précédé d'un arrêt de l'hydratation de l'alimentation, ce qui pose quand même un problème, ou suivi par, et qui conduit immanquablement à la mort. Donc vous voyez, ça peut être aussi...
Quelle est la différence avec l'euthanasie, alors ?
Ça peut être une euthanasie masquée, voilà. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut se réjouir, sans doute, qu'on ne soit pas allé explicitement dans ce rapport. Mais ça ne préjuge pas du tout des débats à venir, et en particulier du projet de loi déposé, de l'amendement déposé par Europe Écologie Les Verts qui sera discuté. On peut se réjouir qu'il n'y a pas de demande de suicide assisté et d'euthanasie explicite, mais on peut quand même craindre qu'il s'agisse vraiment d'une étape vers une euthanasie explicite, parce que dans la plupart des cas, cette sédation profonde et prolongée sera finalement une euthanasie masquée. C'est pourquoi la Fondation Le Jeune, l'Alliance Vita et beaucoup d'autres se sont quand même ont élevé la voix et appellent à la vigilance et appellent même d'ailleurs à manifester, en particulier le 25 janvier à Paris, pour la vie et en particulier contre ce risque d'euthanasie.
Monseigneur Hayet, un mot pour cette dernière partie sur les réalités diocésaines, notamment le 13 décembre dernier, où l'association diocésaine a eu son assemblée générale. C'était à Bayonne. Alors, on a, je crois, parlé surtout des comptes. On dit que le diocèse est en déficit. Alors, est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les perspectives pour cette année ?
Alors, je veux juste préciser que cette assemblée générale de l'association diocésaine était une grande première. Pas parce qu'il n'y avait pas d'assemblée générale jusqu'à présent, il y avait tous les ans une assemblée générale de l'association diocésaine, mais parce que, après avoir consulté l'ancienne association diocésaine, j'ai élargi la composition de cette association à deux représentants, prêtres et laïcs, par paroisse. Là où il y avait deux représentants prêtres et laïcs par doyenné, hein, en comptant aussi les doyens quand ils ne sont pas curés, en comptant... les secrétaires administratifs qui désormais seront à laïc aux côtés du doyen pour aider à la coordination économique d'un doyenné, etc., etc. Bon. Donc je crois que ça c'était déjà une chose très importante. Pourquoi avoir élargi cette association diocésaine ? Eh bien d'abord par un souci de plus grande transparence. Je crois que je veux qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a un vrai désir de transparence et on va en dire un petit mot à ce propos en parlant justement de ces comptes. Et puis aussi pour permettre un échange plus direct en temps réel entre les paroisses et la curie et les services, qui d'ailleurs font cause commune, et c'est cela qu'il faut bien comprendre, et nos auditeurs doivent bien le comprendre, et ce qu'ils ne comprennent pas toujours bien, c'est que la seule entité juridique reconnue en droit civil, c'est l'association diocésaine, qui comprend en une seule entité, et les paroisses, et la curie et les services. Voyez, donc il faut absolument que, même si on peut distinguer, on le distingue dans la clarté des comptes qui sont présentés à l'Assemblée Générale, ce qui concerne les paroisses et ce qui concerne la curie des services, tout ça est évidemment additionné au bout du compte, parce que c'est ça qui intéresse l'État et rien d'autre. Même si nous avons notre droit canonique qui fait que chaque curé, avec son conseil paroissial et économique, gère le patrimoine paroissial. Mais tout ça, en droit civil, appartient à l'association diocésaine. Voilà.
Alors les comptes.
Alors les comptes, c'est évident que nous sommes en déficit structurel, hein, pour des raisons X et Y, et je crois que c'est très bien qu'on puisse le présenter de manière très transparente. On a voulu faire un effort aussi, qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent, de présentation de ces comptes, peut-être pas dans leur globalité, mais beaucoup plus fouillés que dans beaucoup de diocèses, et en tout cas qu'on le faisait auparavant, aux fidèles par l'intermédiaire de notre Église. On voit apparaître en effet, au bout du compte, un déficit quand même structurel de 500 000 euros. Hein. Ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas, tellement original par rapport, malheureusement, à beaucoup d'autres diocèses. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est que nos revenus, essentiellement le dîner de l'Église, mais aussi les dons exceptionnels à travers les produits financiers qui viennent aussi de la force de notre trésorerie d'aujourd'hui, qui est l'héritage du passé, hein, dans un diocèse de vieille chrétienté, que beaucoup d'autres diocèses n'ont pas d'ailleurs, hein, et puis des legs, mais qui restent malheureusement très aléatoires, et c'est pourquoi il faudrait faire une campagne de legs plus proactive dans le diocèse, comme on essaie de le faire en France en général. Bon. Tous ces revenus ne suffisent pas à couvrir nos charges. Les charges, c'est la masse salariale, qui, c'est vrai, est très importante, qui comprend les prêtres. Alors on dit, pourquoi les laïcs, maintenant, en mission ecclésiale, dans des tâches pastorales ou administratives, coûtent plus cher que les prêtres? Parce que pour les prêtres, on compte que le traitement. On compte que la partie du casuel, on compte même pas la partie du casuel qu'ils reçoivent, mais on compte le traitement. On ne compte pas les avantages en nature, c'est-à-dire
le logement,
les charges qui sont assumées par les paroisses. Bon. Donc la masse salariale qui est très importante, qu'il faut absolument que l'on essaie de maîtriser davantage maintenant, ça c'est évident. Il y a aussi les frais de fonctionnement, de charges. Quand on voit l'électricité, ce que ça coûte à l'échelle du diocèse, c'est quasiment 800 000 euros. Donc c'est énorme. Les subventions qui sont faites pour les travaux, qui ne sont pas seulement diocésains, mais paroissiaux. Donc tout ça fait une masse assez importante. Et c'est là où il va falloir qu'on soit encore plus rationnel. Et je crois que l'économe diocésain a bien fait prendre conscience des curés. Mais c'est vrai pour la curie et les services. C'est vrai pour les paroisses aussi. Tout le monde est dans la même galère. Hein. Il ne faut pas dire c'est le diocèse qui... Le diocèse, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, quand on dit les services diocésains, il faut bien savoir que quand la radio La Pourdie nous coûte 100 000 euros par an, ça n'intéresse pas seulement l'évêché, ça intéresse tous les auditeurs. Voyez, quand on voit que le service de l'économa ou de la communication ou de ceci coûte cher, vous êtes, vous, la communication, au service des paroisses. Or, c'est un coût qui est porté exclusivement par le diocèse. Hein. Et donc on a parlé d'une réalité qui est difficile à exprimer, il faudra beaucoup de temps dans les instances ecclésiales pour avancer sur ce sujet, de la contribution des paroisses au poids commun. Voyez, il y a une question de solidarité à mettre en place entre les paroisses, parce qu'il y a des paroisses qui sont plus riches que d'autres, mais ce n'est pas à cause des curés qui font plus de travail que les autres, c'est à cause du contexte, j'allais dire, socio-culturel dans lequel la paroisse est implantée. Hein, et solidarité aussi entre les paroisses et la curie et les services. Bon, c'est un long travail. Je crois que cette assemblée générale s'est bien passée. Elle a été appréciée par tous. Je crois que la transparence, il y a même un trésorier de paroisse du Béarn qui a dit merci et chapeau pour la transparence de l'évêché par rapport au compte. Je crois que c'est nous aussi qui avons beaucoup de travail pour être un peu plus transparents. Parce que vous savez, c'est dans les deux sens. Hein. Donc je pense qu'on va pouvoir progresser avec cette assemblée générale.
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez à votre 53e visite pastorale. Et les deux dernières, c'était en Béarn à Bière et en Pays Basque à Arcang. Alors un mot très rapide.
Vous voyez, deux réalités extrêmement différentes. Hein. Bière, c'est urbain, la périphérie immédiate de Pau, donc beaucoup plus dispersée, je dirais, très, aussi curieux que ça puisse paraître, parce qu'on est plus pris par l'anonymat des villes, alors que Arcang, Bassussari, Aetz, Arbonne, c'est-à-dire Saint-Jean-Baptiste de Louabia, comme vous le savez, c'est une réalité plus rurale et plus urbaine en même temps. Je pense surtout à Bassussari et à Arcang. Et on est au Pays Basque, et quasiment sur la côte basque. Donc j'ai toujours autant de joie hein, à rencontrer les personnes, les plus petits ou plus grands. Je pense à Arcang, avoir vu un curé qui a un souci fédérateur, qui rassemble les gens de quatre villages extrêmement disparates, dont certains sont davantage basques que d'autres, si je puis dire, qui essaie de rassembler les gens, les mettre en chemin pour animer la paroisse, qui a le souci d'accueillir, qui va visiter les esselés. J'ai avec lui visité beaucoup de malades, beaucoup de personnes seules, et j'étais très, très heureux comme toujours. Et puis, dans l'une et l'autre paroisse, je vois aussi la joie Et c'est le curé d'Arcangue qui me disait en partant, il y avait beaucoup de joie. Bah oui, c'est vrai que c'est une des caractéristiques des visites pastorales, c'est que ça donne beaucoup de joie à l'évêque, mais je crois que ça donne beaucoup de joie aux communautés chrétiennes.
Un mot, Monseigneur, on revient sur la Sestac, puisque c'est quelque chose qui va nous toucher concrètement. Vous avez rendu hommage au Père Sestac rue d'Espagne tout récemment avec les élus. Donc les élus sont aussi intégrés à cette année Sestac.
Alors tout seigneur, tout honneur, c'est notre cher abbé Patchy Esponde, qui, comme vous le savez, est très en cheville avec beaucoup de réalités extra-ecclésiales, qui a eu ce souci le 6 janvier, qui est la date de la naissance, la date anniversaire de la naissance et du baptême de Louis de Sestac, pour commencer un peu plus officiellement et publiquement, je dirais, cette année, consacrée au Père Sestac, de faire un hommage, de rendre un hommage au Père Sestac devant la maison natale au 57 de la rue d'Espagne, et d'y convier la mairie de Bayonne et la mairie d'Anglette, et puis aussi le Conseil Général. Je trouve que c'était une très bonne idée, parce que Père Sestac a évidemment une stature publique, il a été sans doute un prêtre et excellent, un fondateur éminent de communautés religieuses, mais il a une stature publique, une vraie prise sur la société de son temps, en lien avec le maire, en lien avec Napoléon III aussi d'ailleurs, comme vous le savez, qui a visité les Bernardines à l'époque et qui l'a pas mal aidé par l'intermédiaire de l'impératrice. Et donc je pense que c'était une bonne idée que de manifester publiquement la présence du Père Sestac. Puis bon, c'est le légat du pape qui va venir béatifier le Père Sestac à Bayonne. Donc je pense aussi qu'il y a un côté un peu public, et qui concerne aussi la mairie de Bayonne et la mairie d'Anglette.
Je signale qu'une vidéo est visible de cet événement, donc rue d'Espagne à Bayonne, sur le site internet du diocèse, diocèse64.org. Monseigneur Hayé, pour terminer, nous diffusons cette émission en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'unité entre les chrétiens, et peut-être même, vous avez parlé de communion tout à l'heure dans le diocèse, de l'unité entre catholiques?
Oui, bien sûr, je crois qu'il faut que nous grandissions dans la communion. Le fondement de notre communion, c'est notre prière commune et c'est notre foi commune. Voilà. Et il faut donc que nous nous recentrions toujours plus sur ce qui fait notre raison d'être chrétien et pour nous catholiques, c'est-à-dire la rencontre avec le Christ. Et c'est pourquoi je pense que ce thème de la Samaritaine éclairera bien nos échanges, notre prière, au cours de cette semaine de prière pour l'unité, parce que la Samaritaine, c'est la rencontre du Christ avec une âme assoiffée de Dieu. Et je pense que tous, nous sommes appelés à témoigner de Jésus à travers une première annonce qui nous est commune, entre orthodoxes, protestants et catholiques, frères séparés, mais unis dans la même première annonce du Christ mort et ressuscité. Donc j'attends évidemment de cette semaine qu'elle fasse progresser, à travers notre prière et nos échanges, nos relations et nos bonnes relations d'amitié, de partenariat, et puis en marche vers l'unité qui est un don de Dieu.
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Hayé. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Et merci à Violaine Ricourt-Dumas.
Merci.
Shema Israël. Audi Israël. Écoute Israël. Ensun Israël. Escute Israël.
Merci à Monseigneur Marc Hayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Retrouvez toutes les informations diocésaines sur le site
www.diocese-bayonne.org.